Voilà, vous allez bien ce matin? Eh bien, écoutez, je vous propose ce matin de continuer. Alors, vous savez qu'on est dans une grosse thématique sur la sanctification. On a terminé, on était sur les séries, sur une série sur les obstacles à la sanctification en parlant du péché, ce qui nous touche nous-mêmes. Et je vous propose ce matin d'entamer une nouvelle série toujours sur les obstacles à la sanctification, mais qui ne viennent pas de nous, mais qui sont liés au monde. L'influence du monde sur la vie des chrétiens et sur nous chrétiens. Et dont la Bible nous parle et nous met en garde très clairement. Et je vais commencer par ce verset. Ça ne va pas être mon texte de ce matin, mais le texte qui va nous suivre durant toute cette série. Et ce verset qui est de l'évangile de Jean, dans 1 Jean, qui va dire ceci: n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Amen. Alors, avant d'introduire le message de ce matin, on va parler d'une entité sur l'influence du monde. Je vais quand même introduire cette série, parce qu'on parle du monde, ça veut dire quoi le monde? Et je vous pose la question, avec l'aide de ce passage, quand on parle du monde, c'est quoi? C'est quoi le monde? Ceux qui ne sont pas chrétiens, alors non, pas tout à fait. Pas tout à fait, puisque Jésus va dire, et vous connaissez ce verset, hein, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Pourtant ici, c'est pas ce qu'on a l'impression, c'est le même Jean qui écrit, hein, pourtant. Qu'est-ce que c'est le monde? Notre environnement avec tout ce qui le compose, oui, et non. Tout ce qui est matériel, alors ça peut l'être, mais en fait non, le monde ce n'est pas ça. En fait, le monde peut toucher à ça, mais le monde, bibliquement, ce n'est pas ce que, en tout cas, Dieu veut dire à travers le monde. Autre chose? J'ai bien fait de vous poser la question. C'est important du coup de clarifier les termes, parce que sinon... Alors, je vais vous donner une image... Et tu peux passer? Qu'est-ce que vous voyez là? On voit deux joueurs de foot qui jouent sur un terrain, ils ont un public, et je vais prendre cette image un peu pour nous parler un peu du monde. Et ce qu'on peut dire, c'est sur le terrain sur lequel ils jouent, c'est l'équivalent de notre planète, sur lequel tout être humain repose. Et du coup, le monde, ce n'est pas le terrain, ce n'est pas notre planète. Les joueurs, ici, c'est la société. C'est la société dans laquelle nous vivons, et ce sont les joueurs. Mais le monde, du coup, ce n'est pas la société. Alors du coup, qu'est-ce que c'est le monde? Le monde, c'est les mauvaises règles du jeu. Au foot, le but, c'est quoi? C'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Imaginons que je change les règles, et que je dise que pour gagner au foot... il faut tricher, écraser l'adversaire, faire tout ce qu'on peut, si on peut le tuer, on le tue, pour marquer des buts. Les joueurs, ça reste les mêmes, le terrain, il reste le même, mais la règle, elle change. Et le monde, c'est ça, c'est la règle. La règle qui peut influencer, du coup, les joueurs, la société, ou le terrain. Mais ce n'est pas le terrain qui est mauvais, ce n'est pas la société qui est mauvaise. Ils peuvent le devenir parce que les règles sont mauvaises. Les valeurs qu'elles portent sont mauvaises. Ça va, c'est clair? Ça permet de faire une distinction très claire, puisque Dieu va parler très clairement aussi de l'amour qu'il porte en ce monde, et de ne pas non plus être dans le côté les ennemis, c'est les autres. Là, c'est se tromper de cible, puisque les autres, Dieu les aime. Sinon, d'ailleurs, nous ne serons pas là. Est-ce que ça va? Donc, changer ici le monde... ce n'est pas supprimer les joueurs, ce n'est pas supprimer la société, c'est changer les règles du cœur. Le monde n'influence pas seulement ce que nous croyons, mais souvent la manière dont nous croyons. Et ce matin, je ne veux pas parler du coup du monde qui est dehors, parce qu'on pourrait dire plein de choses de ce monde qui ne fonctionne pas bien, mais de l'influence qu'il a pour nous chrétiens. Et nous chrétiens, ce monde, les règles qui gèrent cette société dans laquelle on vit, nous influencent, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit chrétien ou pas, nous faisons partie de cette société, et du coup l'influence même si on essaie de la limiter. Nous ne sommes pas préservés de cela. Et j'ai commencé du coup par cette première thématique. Tu peux passer. Et j'ai intitulé du coup le message de ce matin « Quand la foi devient un produit, produit de consommation ». C'est l'influence du monde, ce n'est pas ce que la Bible enseigne, et pourtant dans nos églises, même dans notre attitude en tant que chrétien, nous tombons bien souvent dans un foi qui devient un produit de consommation. Quand je suis content, je consomme. Quand je ne suis pas content, je change de disque. Ça nous touche tous, hein. Et du coup, la persévérance, l'endurance sont de plus en plus absentes, comme dans ce monde, qui change de disque comme il a envie. Imaginez quelqu'un qui rentre dans un supermarché, il prend ce qui lui plaît, il repose ce qui ne lui convient pas. Heureusement, on ne nous force pas à acheter ce qu'on ne veut pas. Mais cette manière de faire, qui est juste hein, quand on fait les courses, parfois on la retrouve aussi dans nos églises. Avec la même logique, il y a un vieux pasteur qui est au Térébinthe, là, qui a fondé les Térébinthes. Si vous connaissez le centre des Térébinthes, c'est au Mans. Donc c'est un grand centre, c'est un ancien centre équestre qui a été transformé du coup en colonie de vacances et en centre pour les chrétiens. Et il m'a dit ceci il n'y a pas très longtemps, je vois des chrétiens quitter une église, non pas parce que l'évangile y était faux, mais parce qu'ils ne s'y sentaient plus nourris. Il m'a dit ceci, c'est un symptôme du monde en nous. La question n'est plus est-ce que c'est vrai ce que j'entends, mais est-ce que ça me plaît ? Et quand ça ne me plaît pas, je change de rayon. Je change d'église, je change de disque. Je change de chrétien parce que ces chrétiens-là, maintenant, ils ne m'apportent plus. Je change. Je suis libre en Jésus. Et ça, mes frères et sœurs, ce matin, c'est le monde qui parle. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Dieu ne change pas de disque avec nous, pourtant nous sommes, on l'a chanté ce matin, bien changeants. Si Dieu faisait pareil avec nous, il nous consommait, oh, on ne serait pas là. Hein. Et cette influence du monde, nous sommes appelés du coup ici à nous positionner, et en tout cas déjà en avoir conscience. L'Église n'est pas Netflix, où on change en fonction des programmes, en fonction de nos envies. C'est un lieu de transformation. On n'y vient pas pour consommer une prédication ou avoir une bonne relation avec les frères et sœurs. C'est important. Mais ce n'est pas que ça. C'est pour rencontrer avant tout le Dieu vivant et des fois ça peut nous déranger. Des fois les frères et sœurs peuvent nous déranger et du coup Dieu nous appelle à persévérer. Si je suis dérangé dans mes relations, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ? Je peux fuir, c'est une option. Et dans cette option, je n'apprends rien. Et ce que Dieu nous apprend, c'est la persévérance. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde de consommation. On choisit, on compare, on zappe, on évalue. Et cette logique-là, elle pénètre aussi dans l'Église. On consomme des cultes même sur Internet. Sur Internet, c'est facile. Hein. On n'est pas content, on clique sur la croix, on change. Personne n'est là pour nous dire quoi que ce soit. Et du coup, on préfère forcément des choses qui peuvent nous parler à l'instant T, et pas du coup ce que Dieu ici veut nous dire. Alors on va dire que c'est Dieu qui nous parle, mais du coup c'est ce que Dieu nous parle avec ce que nous on filtre. Notre vision de la société de consommation. On consomme des prédications, on consomme aussi des expériences spirituelles. Et encore une fois, tout ça c'est pas mauvais. Les expériences spirituelles, les prédications, c'est l'aspect de consommer. On vient pour consommer. Et du coup quand il n'y en a plus, qu'est-ce qui se passe ? À votre avis ? Quand il n'y a plus, eh ben on change. On va trouver des lieux où on peut reconsommer des choses. Et on oublie du coup que l'Église, c'est avant tout chacun de nous qui composons du coup l'Église, le corps du Christ. Et le texte que nous allons lire ce matin montre que ce problème n'est pas nouveau. Jésus va en parler et Jésus refuse catégoriquement une foi qui consomme. Une foi de consommateur. Je vous propose du coup de lire ce texte, c'est dans Jean chapitre 6, du coup, et on va lire pas tout le chapitre, donc je vais raconter un peu les histoires, mais prendre juste quelques extraits. Mais dans ce passage ici, tu peux remettre en arrière, je te dirai Gwendoline pour mettre le texte. Dans ce passage, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que Jésus vient de nourrir une foule immense. Vous connaissez cette histoire sans doute ? Donc la foule a faim. Il y a un garçon qui va arriver avec des pains et des poissons. Jésus va multiplier les pains et les poissons et il fait un miracle. Jésus fait un miracle et du coup, il va nourrir la foule. Et ces mêmes personnes, du coup, le lendemain, vont chercher Jésus encore une fois pour le retrouver. Et Jésus ici va révéler leur motivation, leur cœur. Et c'est mon premier point, tu peux mettre le texte. À partir ici du verset 26, Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. » Jésus dit ceci, « Vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains. » La foule, elle retrouve Jésus le lendemain, pas parce qu'elle est intéressée par Jésus. Elle est intéressée parce que Jésus peut lui donner à la foule du pain et des poissons. C'est le ventre. Bon, c'est bien de manger, hein. Mais là, du coup, Jésus, il va avoir une réaction tout autre. Cette foule, elle suit Jésus après un miracle, après une bénédiction que Jésus vient de faire, après une satisfaction concrète. Et Jésus, ici, ne nie pas leur foi, mais il révèle leur motivation. La motivation n'est pas bonne. Le consommateur spirituel se demande « Est-ce que ça me nourrit ? Est-ce que j'y trouve mon compte ? Est-ce que ça répond à mes besoins ?» En tant que chrétien, ça passe bien, mais on prend les mêmes raisonnements dans le monde, c'est les mêmes règles que ce monde a. Qu'est-ce que moi je peux trouver dans ce que je vis, dans ce que je fais ? Est-ce que je me sens épanoui ou pas ? Et du coup, on consomme. On consomme même des relations, relations amicales, relations même des fois conjugales, ou dès qu'on ne trouve plus notre bonheur ou notre bien-être, ou on le sent moins, on part, on quitte. On consomme. Ça va ? Vous êtes silencieux ce matin, ça va ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou c'est que je ne parle pas tout seul hein, quand même hein. Mes frères et sœurs, dites-moi, hein, levez la main et on peut s'arrêter. Jésus va recentrer immédiatement du coup ses propos, il va dire « Travaillez pour la nourriture qui demeure » au verset 27. Il y a eu Noël qui est passé là, et avec ma petite fille, avec Clémence là, voilà, on lui a offert des cadeaux, donc et bon, elle commence à grandir, hein. Et en lui offrant un cadeau, elle a eu une réaction étonnante, elle était contente, pendant quelques minutes. Et puis très vite, elle nous a demandé « Et maintenant, qu'est-ce que tu me donnes d'autre ?» Pourtant, on n'était pas tout seul, il y avait toute la famille qui avait offert des trucs, et elle nous a demandé « Qu'est-ce que vous m'offrez d'autre ?» À votre avis, alors là c'est un enfant, c'est différent, mais le parent qui est là, qui aime, qu'est-ce qu'il veut ? Lui, il veut une relation. Il veut une relation avec son enfant, mais l'enfant, quand il ne regarde plus le parent, il regarde seulement ce que le parent, ce qu'il peut recevoir de son parent, du coup, la relation, elle n'est plus la même. Mes frères et sœurs, du coup, le problème, ce n'est pas les cadeaux, le problème, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les expériences que Dieu peut faire avec nous, parce que Dieu agit. C'est quand le cadeau remplace la relation. C'est exactement ce que Jésus dit à la foule, « Vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains. » Moi, Jésus, vous en fichez de moi. Tant que vous avez à manger. Dieu, du coup, ce n'est qu'un prétexte. Vous n'êtes pas intéressé par Dieu, vous êtes intéressé seulement par ce que Dieu peut faire dans votre vie. Il peut guérir, il peut vous faire vivre des choses fabuleuses, et merci Seigneur. Et mes frères et sœurs, combien de fois nous sommes dans cette attitude-là ? Nous attendons de Dieu des choses, et nous avons raison d'attendre de Dieu des choses, mais avant tout, le chrétien, il est là pour être avec Dieu. Que Dieu donne ou pas, c'est son histoire. Le chrétien qui vient juste parce que Dieu fait des choses, en fait, il a un problème. Hein. C'est que le monde est rentré dans son raisonnement, dans son schéma de pensée. La consommation, le consumérisme. Est-ce que je parle plus à Jésus ? Et je vous pose cette question, je nous pose cette question ce matin. Est-ce que je parle plus à Jésus pour être avec lui, ou surtout pour lui demander quelque chose ? Je vous propose un défi, du coup, ce matin, à faire cette semaine et même dans les semaines qui suivent, que ce soit pour les enfants ou même les plus grands, essayez de parler à Jésus tous les matins juste pour dire merci. Sans attendre que vous soyez dans la galère, avant de crier à Dieu, parce que ça peut marcher, hein, et ça ne marchera pas longtemps. Parce que là, avec la foule, Jésus, ça a marché une fois, ça ne marchera pas deux fois. Et Jésus, on va voir la suite du texte, hein, Jésus ne fera pas de miracle avec eux. Parce que la foule a besoin de se tourner vers Dieu. Pas de se tourner vers quelque chose, vers un Dieu qui fait que des miracles, ou qui fait que remplir le vide du cœur humain, à travers une expérience spirituelle ou toute autre chose. Et du coup, peut-être le plus simple, et un défi très simple, c'est de dire merci à Dieu tous les jours. Quand tout va bien, même si tout va pas bien, mais de se poser devant Dieu. Pour chercher une relation avec lui, et pas juste chercher avec Dieu ce Dieu qui peut nous délivrer et nous sauver. Mais Dieu, ce n'est pas que ça. La sanctification, elle commence quand Jésus n'est plus seulement celui qui me donne, mais celui que je veux connaître et suivre. C'est la grosse différence qu'il y a entre le disciple et le chrétien lambda. Une foi centrée sur mes besoins m'empêche d'être transformé. Parce qu'une foi centrée sur mes besoins, c'est une foi centrée sur moi. Le moi, le moi, le moi. Et on peut dire, Seigneur, je te donne tout, et dire beaucoup de moi. Je me mets dedans. Hein. Alors, en préparant ces prévisions, ça m'a fait un peu mal. Parce qu'on est tous influencés par ce système de pensée. Ce monde nous influence. Alors suite à la réponse de Jésus, que fait la foule? Jésus ici va leur dire que finalement ils viennent le trouver que pour le pain. Que fait la foule? Est-ce que vous avez une idée? Pour ceux qui ont ouvert votre Bible, vous avez la réponse. Que fait la foule? Que répond la foule à Jésus? Ah non, pas tout de suite. Non, 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 ils font autre chose, juste avant. On est dans Jean chapitre 6. Une idée? Ce que fait la foule, c'est que la foule ne se remet pas en question. Elle pourrait se dire, Jésus nous reprend en disant « Ne venez pas à moi que pour le miraculeux ou pour les expériences ou autre chose. » Il pourrait se remettre en question, c'est pas ce qu'il faut. Au contraire, la foule, elle négocie. Elle négocie et elle va dire ceci, verset 30, « Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ? Que vas-tu faire ?» Et la foule, elle est très maligne parce qu'elle va citer un exemple. Elle va demander un nouveau signe, un nouveau miracle, comme si le miracle de la veille, qui est quand même fort, hein, multiplication des pains et des poissons était déjà périmé, et ils disent à Jésus, « Moïse lui a donné la manne tous les jours dans le désert. » Tous les jours, ils ont eu des miracles. Nos ancêtres, tous les jours, c'était comme ça. Avant, eux, ils ont eu ça. Nous, on a eu une fois. C'était la veille. Aujourd'hui, on veut encore. Et dit comme ça, mes frères et sœurs, ça peut paraître très spirituel. Hein. On a soif de Dieu, on veut encore. Mais là, c'est pas on veut encore de Dieu, on veut encore pour nous. Le consumérisme, du coup, se cache derrière beaucoup de faux semblants. Et il négocie avec Jésus. Moïse, lui, a donné la manne tous les jours dans le désert, et toi, tu fais quoi de plus? Lui, il a fait 10 miracles tous les jours, et nos ancêtres ont vécu cela. Et Jésus va répondre, mais pas comme il l'espère. Il fait pas de miracles, il leur dit, je suis le pain de vie. C'est le cœur du texte ici, de ce chapitre 6. Jésus ne dit pas, je vous donne un produit. Il dit, je suis la nourriture. Je suis celui qui nourrit. Dans le supermarché du monde, on cherche ce que Jésus peut nous donner, mais Jésus nous dit que le vrai cadeau, c'est lui-même. Il s'est offert pour nous. Pour comprendre ce que Jésus dit, parce que ça peut paraître très abstrait, hein, il s'est offert pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, je suis le pain de vie? Ça parle pas, des fois c'est très abstrait comme schéma. Pour comprendre ce que Jésus dit, il faut connaître toute l'histoire ici que le peuple, la foule ici emploie. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte, dans l'Ancien Testament. Dieu va les libérer et ils se retrouvent dans le désert. Ils n'ont rien à manger. Et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Chaque matin, quand les Israélites se lèvent, il y a par terre une sorte de petite nourriture blanche qu'on appelle la manne. Et le peuple va demander qu'est-ce que c'est. Et Dieu va leur dire c'est le pain que je vous donne aujourd'hui. Pas pour demain, aujourd'hui. Dieu va leur demander d'en prendre juste ce qu'il faut pour la journée, de ne pas faire de stock. Et de faire confiance à Dieu pour le lendemain. Bon, le peuple, il va avoir du mal avec ça. Ils vont faire des stocks et finalement, ça va pourrir. Mais Dieu va le nourrir chaque jour. Chaque jour, Dieu va le nourrir pendant 40 ans. Vous imaginez un peu le miraculeux tous les matins. Et je pense que dans la tête des hommes, quand c'est miraculeux tous les jours, l'homme est habitué. Il ne sait plus, du coup, il considère ça comme un dû. Et du coup, il ne se rend plus compte, du coup, de la grâce de Dieu qui coule. Bon, moi, j'ai même pas 40 ans. Je me dis déjà, il y a des fois, je minimise la grâce de Dieu dans ma vie. Et du coup, quand je dis ça, le peuple d'Israël, c'est des êtres humains comme nous. Hein. C'est facile de leur jeter la pierre. Mais nous, on est pareil. Combien de fois on minimise la grâce de Dieu et du coup, on s'oriente vers Dieu uniquement pour trouver quelque chose qui peut nous correspondre, qui peut nous rebooster dans notre foi, qui peut nous... Des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais du coup, qui viennent nous satisfaire, nous. Qu'est-ce que Dieu veut, lui? Est-ce que ce que moi je veux, ça correspond à ce que Dieu veut? Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Et Jésus va dire ici, la manne, c'est très fort ce qu'il va dire. La manne nourrissait le ventre pour 24 heures. Mais moi, je nourris votre cœur pour toujours. Le principe reste le même, c'est une relation chaque jour avec Dieu. Dieu appelle la foule à avoir une relation avec Jésus. Pas juste à être là pour les miracles qu'il peut faire, mais à vivre une relation avec. C'est ce que ça veut dire, je suis le pain de vie. Quelque part ici, c'est de vivre une relation avec Jésus. Est-ce que je cherche Jésus comme on cherche un médicament, quand on est malade ou que je traverse des galères? Ou est-ce que je cherche chaque matin le Seigneur parce que mon cœur a soif de plus le connaître? De manière honnête. Allez, répondez-moi de manière honnête. Est-ce que vous préférez un Jésus qui vous bénit ou un Jésus qui vous gouverne? Ben voilà, ça c'est parce qu'on est le dimanche matin. Honnêtement, moi je vous le dis, hein, honnêtement, moi je préfère un Jésus qui bénit. C'est plus facile à vivre. Un Jésus qui gouverne, ah, c'est pas simple, hein, on dit, vous dites tous qui gouverne. Quand il gouverne, on n'est pas là. Quand Jésus gouverne, c'est lui qui décide. Et quand Dieu décide dans notre vie, bien souvent, on n'écoute pas parce qu'on n'a pas envie, parce que ça vient chambouler nos plans à nous personnels. Et du coup, on n'a pas confiance en Dieu, comme le peuple dans le désert. La confiance en Dieu est limitée. Pourtant, Dieu nous appelle et Dieu veut qu'il soit le maître et seigneur de nos vies. On va voir dans ce texte, hein, Jésus est très radical. Hein. Il ne fait pas de négociation avec cette foule. Il leur présente la vérité, mais il est radical dans son propos. Le chrétien consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une solution rapide, qui tient là sur le court temps. Le disciple, lui, il passe par la dépendance quotidienne à Christ. Peu importe ce qu'il peut vivre, il sait que son avenir est dans les mains du Créateur, qui sait toute chose, qui détient toute chose. Et que ce soit difficile ou pas, il a confiance en son Dieu. Et c'est mon troisième point, c'est le tri final. Ce passage de chapitre 6 va se terminer par un tri que Jésus va faire. Jésus vient de dire qu'il est le pain descendu du ciel, au lieu de se réjouir. La foule ne va pas se réjouir. La foule commence à murmurer, elle commence à râler. Pourquoi? Parce que je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on veut que Jésus nous gouverne ou nous bénisse? Eux, ils sont honnêtes, ils veulent pas que Jésus les gouverne, ils veulent que Jésus les bénisse. Et du coup, ils râlent. Ils râlent parce qu'ils veulent pas de ça. Le discours pour eux devient trop exigeant, trop dur. Et le texte nous dit qu'ils vont être choqués. Choqués, quelque part en mode quoi? Dieu n'est pas là pour résoudre tous mes soucis. Dieu n'est pas là pour résoudre, pour répondre à tous mes besoins. Pourtant, moi, je croyais que c'était ça, Dieu. Verset 60, après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Au moins, ils sont honnêtes. Hein. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Et là, on arrive à un moment de crise. C'est peut-être une des seules fois dans le ministère de Jésus où des disciples vont l'abandonner et partent. Pourtant, ils ont vécu la veille un miracle. Hein. Ils ont vu que Jésus est Dieu. Et parce qu'ils n'acceptent pas la seigneurie de Jésus dans leur vie, ils n'arrivent pas à écouter, là, à entendre ce que Jésus leur dit, ils partent. Et on pourrait s'attendre à ce que Jésus court après eux en disant « Attendez, j'ai mal expliqué, revenez, on va rediscuter, je vous aime, allez, on va, vous avez besoin de temps peut-être pour comprendre. » Non, non, non. Jésus, ce qu'il va faire, il accepte de voir des gens partir plutôt que de diminuer la vérité de son message. Il refuse de transformer l'évangile en un produit facile à vendre pour plaire au plus grand nombre. Et on pourrait se dire que Jésus va calmer le jeu ensuite. C'est pas du tout ce qu'il va faire. Jésus va se tourner vers ses amis les plus proches, les 12, et il va leur poser cette question. Et vous, vous voulez pas partir? Bon, c'est Jésus qui parle, hein, ça va, mais on pourrait se dire, il est pas très malin, lui. Hein. Déjà, il y en a qui sont partis, ils se tournent vers ceux qui restent, ils sont pas beaucoup, et ils leur demandent, et vous, vous voulez pas partir? Cette question de Jésus, moi je crois que Dieu nous la pose ce matin. C'est la question que le Seigneur nous pose à tous. Es-tu ici pour que je te donne ou pour qui je suis? Et Jésus ici veut être bien certain que ceux qui restent, restent pour les bonnes raisons. Et on a Simon-Pierre qui va dire cette parole fabuleuse. Il va dire « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi. Et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Amen. Je prends un exemple. Alors il y a Pierre, bien sûr, qui fait une très bonne réponse et qui déclare sa foi complète en Dieu, peu importe ce qu'il pourra vivre. Mais dans l'exemple de l'histoire de l'Église, on a plein d'autres exemples. J'ai pris l'exemple de Dietrich Bonhoeffer. Tu peux passer, Gwendoline. Vas-y, tu peux passer encore. Dietrich Bonhoeffer. Je l'ai déjà cité, c'est un pasteur allemand qui a été pasteur pendant la Deuxième Guerre mondiale, période assez sombre, hein, du coup, de l'histoire. Et il était allemand en plus, hein, lui. Et à l'époque, à cette époque, beaucoup d'églises ont choisi le confort. C'est la guerre. Et les églises ont choisi le confort de se taire. De se taire pour ne pas avoir les ennuis, des ennuis au lieu de dénoncer le mal du régime nazi. Les églises vont se taire et elles vont être consommatrices de sécurité. Parce qu'elles ont peur, elles ne vont pas dénoncer le mal. Dietrich Bonhoeffer, c'est pas ce qu'il va faire. Bonhoeffer, il est pasteur, son cœur vibre pour Dieu, et lui, il a choisi de rester attaché au Christ. Il va continuer de dire la vérité, il va dénoncer le régime nazi, il va aider des juifs à se cacher, il va dénoncer l'injustice du système nazi, et pour cela, on pourrait se dire, Dieu va faire un miracle. Pas du tout. Il va être arrêté, mis en prison et mis à mort juste avant la libération du camp. Parce qu'il va être interné dans un camp, concentration. Et juste avant qu'on libère le camp, les nazis vont dire « Lui, il faut le tuer avant. Il nous a fait trop de mal pendant la guerre. Il faut qu'on le tue. » Et ils vont le tuer. Et Dietrich Bonhoeffer va mourir pour sa foi. Il va dire cette phrase. Durant les 4 ans de guerre, il va dire cette phrase forte qui va dire aux chrétiens allemands qui se taisaient face au mal. Une phrase forte, hein, quand Christ appelle, un homme, il l'invite à venir et à mourir à lui-même. La vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, ce n'est pas venir à Christ et avoir nos propres envies, notre propre confort. C'est laisser le Christ régner au travers de nous. Je vous le rappelle, c'est pas la première fois que je le dis, les 12, juste avant, qui vont dire à Jésus, nous on reste, ils vont faire comme Dietrich Bonhoeffer, ils vont tous mourir. À part Jean, celui qui a écrit d'ailleurs, bon, il finit déporté dans une île, c'est pas forcément non plus les Bahamas, hein. Mais tous finissent, et ils meurent le martyr. Parce qu'ils ont mis leur confiance en ce Dieu qui est le pain de vie. Les disciples, ce n'est pas juste par leur effort qu'ils ont pu faire ça, c'est parce qu'ils ont compté sur la grâce de Dieu. Ils savent qui Dieu est. Et du coup, leur aspiration n'est qu'en Dieu. Ce n'est pas juste sur leur confort d'ici-bas, leur propre sécurité d'ici-bas. Est-ce que ce matin, nous pouvons dire de manière honnête, comme Pierre, comme les 12, comme Bonhoeffer, que nous ne suivons pas Jésus pour les miracles. Que nous ne suivons pas Jésus pour ce qu'il peut me donner, pour les bonnes expériences que je peux avoir avec lui, pour toutes sortes de choses. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Ou est-ce que je consomme ma foi comme dans ce monde, J'ai la même règle, je suis chrétien, mais j'ai la même règle que ce monde. Si suivre Jésus devenait difficile, quelque part c'est ça la question, si suivre Jésus devenait difficile, est-ce que je resterai quand même? C'est une vraie question. Hein. En préparant ce message, je me suis posé la question moi-même. Parce que c'est facile de dire oui. Hein. Facile de dire oui, après il faut le vivre. Et c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple, mais laisser Dieu habiter pleinement en nous, c'est ce qu'il nous commande. Celui qui a découvert la grâce de Dieu sait que tout ce que nous avons ici-bas n'est rien comparé à ce que Dieu nous offre. La sanctification, ce n'est pas accumuler des expériences spirituelles comme on collectionne des points de fidélité en disant « moi j'ai vécu ça, ça, ça dans ma vie » comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est demeurer attaché au Christ. Même quand elle nous montre nos défauts, même quand Dieu nous montre nos défauts, même quand suivre Jésus nous coûte notre confort, notre réputation, notre argent, voire notre vie. Comme Bonhoeffer, comme Pierre, comme les douze, comme Paul, plein d'exemples. D'hommes, de femmes, qui ont véritablement été disciples, où Jésus a gouverné dans leur vie. Et où quand on les voyait, on ne voyait pas eux, on voyait le Christ. On voyait le Christ. Pour conclure, je vais terminer avec ce passage que Jésus parle dans Jean chapitre 6. Verset 49 à 51, Jésus va préciser ceci. « Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. » N'oublions pas l'avertissement. L'avertissement de Jésus, il est très clair dans cette histoire. Ce peuple d'Israël a vu des miracles. Il a vu Dieu qui a ouvert la mer en deux. Il a vu Dieu qui leur a donné à manger la manne miraculeuse chaque matin pendant 40 ans. Ils ont collectionné les points de fidélité de miracles, d'expérience avec Dieu. Ça, ils les ont. Et pourtant, Jésus rappelle ceci, ça ne les a pas empêchés de mourir. Et quand Jésus dit cela, c'est pas juste qu'ils sont morts de vieillesse. Hein. Ils sont tous morts dans le désert. Parce que Dieu n'était pas leur Dieu. Dieu va leur dire... Ok, il n'y en a que deux qui vont survivre, Caleb et Josué. Tout le reste, vous allez mourir dans le désert. Avec les miracles, hein. Parce que Dieu, du coup, il les fait tourner dans le désert pendant 40 ans. Il leur donne à manger. Vous voulez des miracles? Allez, je vous donne, mais vous allez mourir. Je vous donne ce que vous voulez. Et finalement, qu'est-ce que nous, on veut? Et ce que Jésus dit, c'est assez fort. C'est ce qu'il dit à la foule. Certes, moi, j'ai fait un miracle que hier, avec la multiplication des pains et des poissons. Vos ancêtres, c'est vrai, ils ont eu des miracles tous les jours, mais ils en sont morts. Ça, la foule, elle a oublié. Ils en sont morts parce que Dieu n'était pas au centre. Parce que Dieu n'était pas le maître. Ils aimaient ce que Dieu donnait, mais ils n'aimaient pas celui qui donnait. Ils étaient ce qu'on appelle des consommateurs de miracles. Des consommateurs d'expérience. Des consommateurs chrétien. Leur cœur n'a jamais été transformé. Être un chrétien consommateur, mes frères et sœurs, c'est courir le même risque. Celui d'avoir une religion qui nous plaît, une foi qui ne nous sauve pas, mais Jésus n'est pas un produit spirituel. Qu'on achète pour se sentir bien, une simple expérience religieuse pour avoir des émotions, une solution temporaire à nos problèmes de la semaine. Il est le pain de vie. La foule, elle a une chance incroyable. Jésus se propose à eux. Ils ne vont pas saisir cette chance. Ils vont partir. On pourrait dire, Jésus, il les aime quand même. Il pourrait les rattraper. Il va les laisser partir. Il va dire à ceux qui restent, est-ce que vous voulez partir? Parce que Dieu ne force la main de personne. Dans son amour, Dieu laisse les hommes libres d'avoir ce qu'ils veulent. Ce matin, Dieu nous pose la question... Dieu se tourne vers chacun de nous ce matin, au milieu de nos doutes, peut-être, de nos habitudes. Il nous pose la même question qu'aux apôtres. Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? C'est le genre de question qu'on n'aime pas. Hein. Mais je pense que c'est le genre de question qui nous permet de nous positionner. Est-ce que je suis encore dans ce que Dieu veut pour moi ou est-ce que je consomme ? Je consomme ce Dieu ? Est-ce que ma foi, du coup, est devenue un produit ? Est-ce que le monde, quelque part, est rentré dans ma vie ? À cette réponse de Jésus, on peut répondre plusieurs choix. On peut dire oui, car cela ne me plaît plus. Et au moins, c'est très honnête. Mais bon, c'est pas du coup mettre Dieu au centre. Ou on peut répondre comme Pierre. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu es le seul qui donne la vie. Pourtant, Pierre, le même qui parle, là, il va avoir des chutes. Il va trahir Jésus. Mais les chutes qu'il aura, finalement, c'est ce qu'il est en tant qu'être humain ici. Mais Jésus sait que Pierre veut qu'il règne pleinement. Et c'est pour ça que Pierre, d'ailleurs, il va avoir un ministère fabuleux, où il va être cette pierre, du coup, dans l'Église. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, ce matin, la question, finalement, Dieu nous l'adresse de manière personnelle. Moi, personnellement, préparant ce message, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à être encore plus dépendant de toi. Ce monde a ses règles. Ses règles, elles nous influencent. Mais je ne veux pas que cette influence, du coup, vienne m'atteindre. Déjà, prendre conscience de cela, pour que ce Dieu ne soit pas la consommation. Beaucoup, aujourd'hui, dans nos églises et même dans le monde chrétien, tombent dans ce piège de la consommation. Et c'est très facile aujourd'hui, puisque le monde fonctionne comme ça, et puis avec tout ce qu'il y a, Internet et compagnie, on change d'église comme on change de chaussettes. Bon, avant d'être à Saumur, j'étais en région parisienne. À Saumur, bon, vous allez me dire, vous êtes un peu moins... Il n'y a qu'une église, donc forcément, c'est un peu plus difficile d'aller trouver une autre église. Mais en région parisienne, j'étais à Saint-Germain-en-Laye, l'ouest parisien, et en région parisienne, il y a plein d'églises. C'est facile de trouver une église, parce qu'il y en a plein. Et du coup, dans toutes les églises de la région parisienne, en tant que pasteur, du coup, on avait fait ce constat tous ensemble, que dans nos églises, les deux tiers des personnes, c'est ceux qui viennent et qui sont attachés à l'église, l'autre tiers, c'est pas des nouveaux, c'est ce qu'on appelait nous, alors avec beaucoup d'humour, des papillons chrétiens. Eux pensent qu'ils ont une église parce qu'ils vont à l'église tous les dimanches, mais c'est pas la même. Alors, ils changent pas forcément tous les dimanches, des fois ils restent un mois, après ils changent, on les revoit plus. Pendant un an, deux ans, des fois pendant trois mois, puis ils reviennent. Certains sont membres, ils sont même membres de l'église, mais ils ne sont pas impliqués, ils connaissent moins les frères et sœurs, et ça leur convient. Ça, c'est la consommation. Le piège, en plus, c'est que vu qu'ils vont à l'église tous les dimanches, intérieurement, je suis sûr qu'ils croient qu'ils sont chrétiens, mais ils vivent rien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide ce matin. Alors, je vous propose de courber nos têtes ce matin, de remettre ces temps dans les mains du Seigneur et de prier. Que le Seigneur puisse nous aider ce matin à discerner sa volonté dans nos vies. Est-ce que finalement le Seigneur règne pleinement en nous ? Et si ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs, ce n'est pas un problème. Dieu est celui qui tend la main. Et ça, c'est beau. Nous avons un Dieu qui tend la main. Peut-être que ce matin, tu te reconnais dans ce message, tu te dis peut-être que j'ai perdu le fil, et du coup je te propose de faire cette prière avec moi. Pendant que nous courbons nos têtes et que chacun se remet devant le Seigneur, nous pouvons prier, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour les fois où nous t'avons traité comme un distributeur automatique de bénédictions, et délivre-nous d'une foi à consommer. Et Seigneur, viens nous conduire dans une foi qui nous transforme à ton image, pour que toi, Seigneur, tu puisses véritablement régner dans nos vies. Seigneur, nous voulons plus de toi, plus de ce que toi tu es, et ne pas juste nous satisfaire de ce que toi tu nous donnes. Viens nous préserver encore de cela, mon Dieu, que nous ayons les oreilles et les yeux bien ouverts, pour que ce monde ne puisse pas régir nos vies chrétiennes. Nous voulons, mon Dieu, chasser toute influence du monde, positionner devant toi, viens Saint-Esprit, éclairer nos vies ce matin. Toi qui as su toucher nos cœurs, tu es celui qui est capable, aussi ce matin, de révéler dans nos vies ce qui peut-être va moins bien, pour que nous puissions encore une fois, Jésus, te remettre pleinement au centre de nos vies. Viens nous aider, Père, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous savons qu'en nous appuyant sur toi, mon Dieu, nous pouvons tout en toi. Merci Jésus. Amen.